Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine et confinés chez nous et très heureux de vous retrouver. Je rappelle qu'on peut écouter Invino Sud Radio à Perpignan par exemple sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Comme chaque dimanche, je suis en compagnie de Philippe Orbrac, président de la Sommellerie française, et de David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Alain.
Bonjour, Alain.
Alors,
bonjour
pour commencer cette émission, ce Invino Sud Radio, on a le plaisir d'accueillir Thibaut Jarousse, qui est président et cofondateur de Divine. Bonjour, Thibaut.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Thibaut, déjà, comment ça se passe côté santé? Vous êtes bien? Vous êtes confiné où? Vous êtes à Nantes ou alors au Pouliguen, comme Sébastien Joumard? Dites-nous.
Alors non, on est resté à Nantes, on n'a pas envahi la côte parce que on a beaucoup de clients, alors bon, qu'on fermait hein, parce qu'on s'adresse aux restaurateurs et aux hôteliers, mais on continue à opérer, à faire du business. Donc on est resté à Nantes avec la plupart de l'équipe hein, donc on est 45 chez Dylan.
45 Nantes, Philippe Forbrac, on pense forcément à des beaux vins, ceux du Muscadet, ceux des gros plans. Il faut les aider, il faut les aimer, il faut soutenir tous les vignerons français, mais eux en particulier, Philippe.
Exactement, on peut soutenir. Il faut soutenir tous les vignerons français, bien entendu. La filière souffre beaucoup, hein. C'est un des éléments majeurs et moteurs. Mais comme les restaurateurs, les cavistes, les bars, les boîtes de nuit, tous les événements sont annulés, effectivement, c'est un gros manque à gagner dans la distribution de la finalité de tout ça.
Dans la distribution.
Et néanmoins, pour revenir au Muscadet, puisque vous voulez faire un clin d'œil au pays oui. Monté, il y a quand même des vins magnifiques. Et par les temps qui courent, en plus, ce sont des vins super accessibles en prix, super intéressants au printemps, avec les produits de la mer, mais pas que, les légumes aussi. Vous pouvez vous faire plaisir avec des accords muscadés, gros plan, vous l'avez cité, les coteaux d'Ancenis également, qui sont des vins qui sont vraiment à découvrir.
David Cobol, vous avez un coup ouais. de cœur, peut-être un bon muscadet à nous conseiller, peut-être.
Alors justement, je regardais le catalogue de Thibaut sur Divine, et il y a un excellent muscadet de Bruno Cormoret, personne que j'ai visité. Allez, et c'est formidable son muscadet, donc allez-y, et ça vaut 4,40 € les 10 centilitres dans la sélection de Divine, donc chapeau.
Alors Thibaut, donc, vous êtes ingénieur de formation, suivi d'un MBA à HEC, et vous avez commencé par travailler chez Yves Rocher avant de créer votre boîte, racontez-nous.
Oui, tout à fait. Alors en fait, donc j'ai commencé chez Yves Rocher en 2004, j'ai bossé 8 ans là-bas, j'ai appris plein de choses, c'est une super boîte, alors j'étais plutôt dans les opérations. Mais j'ai appris aussi en travaillant chez eux et puis dans la cosmétique, j'ai aussi travaillé un peu pour Shiseido, que finalement le vin et la cosmétique, il y avait quand même un dénominateur commun, c'est que c'est pas un produit de première nécessité. Et c'est un peu en fait pendant la crise de 2008, ce qu'on nous avait expliqué dans la cosmétique, quand il y a une crise, est-ce que on a besoin de continuer à se maquiller? Est-ce qu'on a besoin de continuer à sentir bon? Finalement, le vin, c'est pareil, c'est ce que je dis souvent à mes salariés, quand vous avez soif, vous buvez de l'eau. Par contre, quand vous avez un anniversaire ou vous voulez fêter le déconfinement, est-ce que vous avez envie de sabrer une bouteille d'eau ou de vous ouvrir une bonne bouteille d'eau? Il y a un peu ce côté, on est sur un produit plaisir. Vraiment, moi, ce que j'ai appris, alors j'ai appris aussi à gérer des opérations en grand. J'étais au comité de direction d'une des plus grosses business units de chez Yves Rocher. Donc, avant d'expédier 12 millions de colis par an, toutes les boîtes ont été petites un jour. Et donc, faut commencer à son échelle, à savoir gérer pour 100 clients, pour 1000 clients.
Vous avez appris quoi. Thibaut, racontez-nous alors, donc Divine, l'idée c'était quoi? Vous pensiez que le goût du vin était différent chez le vigneron de celui qu'on peut trouver à la maison par exemple ou chez un restaurateur?
Alors ouais, c'est vraiment le point de départ de l'aventure avec mon associé Louis. En fait, on a appris le vin en achetant chez les vignerons au château. Mais on était toujours assez déçus entre le vin qu'on avait goûté chez nous. On le regoutait 3 mois après, on se disait mais attends, c'est pas le vin que j'ai eu en dégustation. Alors au début, on se disait on a des têtes de touristes. On a acheté un vin et puis on nous a mis…
Les Nantais sont des grands touristes aussi, non, je plaisante. Hein,
ouais, il y a un peu de ça. Et donc, en fait, en prenant des cours d'œnologie, on s'est tout simplement aperçu que servir un vin, c'était quand même assez technique. Il y avait une chaîne de valeur qui était très complexe. D'abord, il fallait bien le stocker. Ensuite, on l'ouvre, mais il faut quand même le consommer rapidement. Il faut le servir à la bonne température, bien aéré. Et puis, l'histoire est capitale, c'est-à-dire que Le vin, c'est un produit qui a besoin d'être raconté, qui a besoin d'être présenté. C'est pour ça que souvent, ça fait aussi partie du spectacle, hein, qui va être offert grâce au sommelier dans un établissement de cam.
C'est ce que j'allais dire, on peut pas avoir chacun un sommelier à la maison.
Ben, c'est
une bonne alternative, effectivement.
Ou alors, faut s'appeler Madame Forbrac. Si on s'appelle Madame Forbrac, on a un sommelier en permanence.
Et donc, la Divine ne remplace pas un sommelier. Hein. C'est juste un assistant qui va permettre de libérer du temps de conseil avec le client au sommelier. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller dans un restaurant où il y a un sommelier et de ne pas pouvoir lui parler parce que c'est samedi soir, le restaurant est plein et puis c'est le coup de feu et il est obligé de courir à droite à gauche. Si on peut lui libérer un petit peu de temps et qu'il puisse déléguer à l'équipe des gestes techniques sur servir un Chassagne Montrachet premier cru ou un Corton Charlemagne à 13 degrés, et puis ce sont des gestes…
Oui, il a plus de temps, quoi. Alors, votre produit, quoi, donc vous avez inventé une machine, c'est ça, avec une technologie qui est française, monsieur?
Tout à fait, tout est fait en France. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut 2 ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour passer à côté. Alors, en tant qu'ingénieur, on s'est dit, attends, il y a forcément un truc pour solutionner ce problème-là. Donc, on a développé un système qui s'appelle la D-Line et qui permet, en fait, en 1 minute de servir des flacons donc de 10 centilitres. Donc, ça se présente sous la forme d'un tube, un cigare de 20 centimètres et puis, qui contient l'équivalent d'un
contenance de 10 centilitres, hein, vous dites.
Exactement. Donc, il y a une puce RFID. C'est, en fait, comme les cartes de paiement sans contact, c'est ça qui porte toute l'intelligence du flacon. Et cette puce va permettre de dire à la D-Line comment servir le vin. Donc, par exemple, si je mets mon verre, j'ai déjà percuté, hein, mais de Chassagne Montrachet premier cru, elle va directement le détecter, donc je peux pas faire d'erreur. Et puis, elle va me dire qu'il faut le servir à 13 degrés. C'est ce que veut le château de Pommard aussi, avec validé avec notre œnologue. Et donc, elle va le carafer l'équivalent de 3 heures.
Donc, en 2-3 heures, c'est très bien ça.
Exactement.
Elle fait votre boulot, Philippe Forbrac, cette machine. Hein, vous êtes au chômage. Non,
comme le disait Thibaut il y a quelques instants, c'est un vrai complément au métier de sommelier parce que ça permet de libérer du temps pour justement aller discuter avec les gens, pouvoir faire d'autres types de services, etc. Donc, c'est un bon complément. D'ailleurs, je connais bien le système puisque nous avons avec Thibaut eu l'occasion d'en discuter souvent et même parmi les premiers événements qui ont été réalisés, je les ai accompagnés pour présenter un petit peu l'appareil parce que la nouveauté m'intéresse toujours, suivre ce qui se passe dans l'actualité et c'est une démarche effectivement assez différente de celle qu'il y avait eu jusqu'à maintenant.
Thibaut, vous avez vendu à ce jour 250 000 flacons, c'est pas mal. Qui sont les clients finaux?
Alors aujourd'hui, 95% du chiffre d'affaires sont des hôtels et des restaurants. Donc 250 000, c'est pour l'année 2019, sachant qu'au global, on a dépassé le 1 million de flacons. On est sur 5% de notre chiffre d'affaires en fait sur des clients particuliers. Et au départ, on avait lancé en fait la D-Line pour être le Nespresso des grands crus chez les particuliers. Et puis on s'est rendu compte que la marche était trop haute pour évangéliser le grand public. C'était long, ça prenait du temps. Donc, en fait,
vous avez changé de stratégie quelque part, quoi.
Exactement. On a pivoté l'entreprise en 2017. On s'est aperçu que les hôtels, les restaurants, il y avait un vrai besoin. Que souvent, le sommelier, il avait besoin d'aide. Donc, on a beaucoup d'établissements. Il y a un sommelier aussi qui officie. Et du coup, rapidement, on a fait décoller le chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est quand même dans une industrie où 70% des commandes de vin en hôtellerie, en restauration, sont des commandes de vin au verre. Le midi, il y a 95% de la demande qui est au verre.
De plus en plus.
Exactement. Et vous pouvez pas être dans une industrie où 99% des gens produisent en bouteille.
En bouteille, quoi.
Et 70% de la demande le midi.
Thibaut Jarousse, en cette période de confinement, donc pour la partie restauration, c'est compliqué pour vous. Ben là, vous avez lancé plein de choses sympas, notamment donc un concept de vin, vos vins en tube 10 centilitres avec une fromage.
Tout à fait. Alors, c'était assez violent. Hein. Le 15-16 mars, quand on a appris que tous nos clients allaient fermer, on a perdu 95% de notre chiffre en 3 jours. Et donc, on s'est dit, mais si les gens peuvent plus aller au restaurant, comment est-ce qu'on peut amener le restaurant chez eux? Et donc, on a fait un partenariat avec Bayvert, par exemple, qui est un des grands fromagers du pays nantais, pour faire des box vin et fromage. Donc, il y a 1,3 kg de fromage avec 2 accords de vin.
Avec un verre de vin, 1,3 kg de fromage pour un verre de vin.
accélération, pour être sûr de pas alors,
avec quoi. Plusieurs verres de vin, mais pas le même, parce que ça permet en fait de goûter plusieurs accords mets vins sur un.
Et vous lancez aussi les e-apéro, les e-testing aussi, là, vous avez plein d'idées, hein, racontez-nous.
Mais exactement, parce que les gens en fait ont redécouvert finalement la convivialité à distance et ça permet avec 4 flacons et un peu de charcuterie espagnole d'avoir un moment de convivialité.
Bien entendu. Je voulais et donc juste... ça fonctionne bien. Comment ça allez-y, David.
Je voulais juste dire que tout ça, ça vaut rien si vous n'avez pas de bon vin. Et je voulais vous féliciter sur la qualité de votre sélection, qui est vraiment remarquable, aussi bien en blanc qu'en rouge et avec toutes les zones de prix. Donc, vraiment, vous faites un travail de sélection admirable.
Comment ça coûte
Béatrice, avec Béatrice
le côté concret, bien sûr.
Parce oui, tout à fait.
Avec un sacré boulot.
Notre analogue, oui.
Ouais. Exactement. Et Laurent Béret qui participe également à un certain nombre d'actions.
Exactement. Un grand monsieur également du vin, un mof comme vous, Philippe Orbach. Pour terminer, combien ça coûte une bouteille, donc la box vin fromage, comment ça marche? C'est un abonnement, Thibaut?
Alors, en fait, non, vous pouvez l'acheter comme ça. On peut aussi s'abonner à la Divine pour 99€ par mois. Vous avez 70€ de vin qui sont inclus là-dedans. Et donc, on a des box à partir de 19,90€. D'ailleurs, pour la première box, on a décidé de reverser l'intégralité de notre marge et de nos profits au CHU de Nantes. Et voilà, on ne voulait pas fabriquer de gel hydroalcoolique à partir de vin. Donc, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait contribuer en prenant un verre de vin à apporter notre petite pierre à l'édifice.
Et comment ça marche, là? Vous avez beaucoup de nouveaux clients?
Alors, on a multiplié par 4 le chiffre d'affaires là en quelques semaines sur les particuliers. Donc, on a un vrai intérêt. Faut bien s'imaginer que par foyer, avec le confinement, il n'y a plus que 1 ou 2 consommateurs de vin dans le foyer en moyenne. Et que la bouteille…
Merci beaucoup, en tout cas, Thibaut Jarousse. Il y a un site internet peut-être pour connaître encore plus sur Divine?
Oui, alors www.divin10-vins.com. Et donc, on continue aussi toujours à soutenir les professionnels avec de la vente à emporter. On travaille aussi.
Les professionnels, il faut soutenir les vignerons. Merci beaucoup, Thibaut. Merci, Philippe. Merci également, David. On se retrouve pour parler des Côtes de Gascogne avec un excellent rapport qui a été pris. À tout de suite.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la maison et non pas à la cave Nicolas Place de la Madeleine à Paris pour cette émission en direct de Invino Sud Radio. On retrouve David Cobol pour nous parler de l'appellation Côte de Gascogne. Alors David, on vous voit à l'écran pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur Facebook ou Facebook YouTube. Dites-nous là, vous êtes dans le Gers? Vous êtes confiné dans le Gers?
Eh oui, je suis confiné dans le Gers, limite Gers et Tarn-et-Garonne. Et en bordure de cette vaste zone de Côte de Gascogne. Donc ça, c'est une bouteille du rouge. Les rouges sont très, très minoritaires dans cette région. Il n'y a que 7% de Côte de Gascogne rouge. Pour vous décrire la région, d'abord, elle est très belle. C'est des collines roulantes. Tout le monde connaît cette terre de Gascogne. C'est en gros tout le département du Gers avec un petit bout des Landes à l'ouest et au nord, un petit bout du Lot-et-Garonne. Mais 90% de l'aire de cette IGP, c'est une ancienne vin de pays, aujourd'hui indication géographique protégée, 12 000 hectares, c'est le Gers. En gros, c'est la même région que l'Armagnac. Alors, l'IGP a été acquis en 2009, donc c'est pas très vieux. Ce qui est très particulier dans cette région atlantique, à un climat très océanique, parce que l'Atlantique n'est pas très loin, enfin ça dépend si on est vraiment à l'ouest ou à l'est, parce que la zone est vaste, c'est une grande production de blanc. 95% des vins sont blancs et 75% sont des
blancs. Et pourquoi, David, pourquoi c'est une tradition de blanc? Le rouge a du mal ou c'est
non, mais c'est facile à comprendre parce que ce vignoble est une vignoble qui a été reconverti à partir des cépages pour l'Armagnac. Donc, les cépages pour la distillation sont essentiellement des cépages blancs. On ne souhaite pas de couleur dans le vin pour la distillation. Donc, le cépage majoritaire, c'est le colombard. Ensuite, il y a l'uniblanc et les deux mansagnes, le gros mansagne, le petit mansagne. Il y a aussi du sauvignon blanc et un peu de chardonnay et d'autres cépages. Ben, voilà le gros de la production. Donc, puisqu'on distillait des cépages blancs, on a reconverti le vignoble avec ces cépages blancs en y additionnant d'autres cépages plutôt améliorateurs, style sauvignon, style chardonnay et les deux mansagnes qui sont des cépages des Pyrénées. Pour les rouges et les rosés, on utilise le merlot, les deux cabanais, franc et sauvignon, et le tanat, cépage bien connu, pas très loin, à Madiran, qui touche par le sud-ouest cette aire d'appellation. Alors, ces 12 000 hectares, c'est à peu près 100 millions de bouteilles par an et 60% à l'export. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une région qui est peu connue, qui n'a pas beaucoup d'histoire, a vraiment bâti sa réussite sur l'export. Aujourd'hui, c'est la France.
Quel pays, David, en général? Quels sont les pays importateurs des côtes de Gascogne?
Alors, il faut regarder les prix moyens. Les prix moyens sont très raisonnables. C'est un IGP, donc c'est pas une appellation contrôlée. Les contraintes sont moins sévères sur les rendements. Les vignobles étant récentes, il a été très bien organisé pour être mécanisé. Du coup, on peut produire à un coût assez faible. Je dirais que la fourchette, c'est 5 à 10 euros. Hein.
Les pays destinataires, David, vous dites, c'est plutôt l'Angleterre?
Eh bien, comme ces vins sont des prix modestes, c'est des marchés économes, on va dire. Donc, c'est l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne et un peu la Belgique. Voilà les quatre principaux pays à l'exportation. Mais la France, c'est quand même 40%. Hein. Et il faut quand même rendre hommage à deux géants qui ont fait, je dirais, la renommée de ces vins-là dès le départ. D'abord, la cave de Plémont, cave coopérative très importante, très innovante et qui fait des vins d'excellente qualité. Et puis, un domaine
privé… partenaire du festival de jazz de Marcillac. Hein. On ne sait pas s'il aura lieu cette année.
Je crains que non.
Très dynamique.
Je crains que non. Et puis, un autre très grand domaine, mais cette fois-ci privé, le domaine de Tariquet, avec ses 1 000 ou 1 200 hectares, qui fait aussi de l'Armagnac. Moi, je l'ai connu quand il faisait que de l'Armagnac. Et ces deux ont vraiment fait le lit de cette appellation. Mais à côté de ça, vous avez 200 vignerons indépendants. Tous les autres sont en des coopérants ou fournissant le négoce. Et je vais vous donner quand même quelques noms, peut-être, des grands domaines, des beaux
Bien
domaines.
Sûr.
En dehors de Plémont et de Tariquet, et Plémont contrôle aussi un château qui s'appelle Cassagne, qui fait également de très jolis vins, je citerai le domaine de Missel. Le domaine des Remparts, c'est les jeunes qui ont repris un domaine familial il n'y a pas très longtemps, ils sont dans la partie Lot-et-Garonnaise. Jean Sac, Chirolet, Philippe Fezas à Chirolet, qu'on a interviewé à cette antenne il n'y a pas très longtemps. Domaine d'Antras, Arton, qui est près de Lectour, donc le côté proche de chez moi à l'est. Et puis, domaine de Léré. Il y en a plein d'autres. Vraiment, et pour les doux, Ubi fait des très jolis doux et Villadria également. Donc, il y a énormément de diversité de cépages. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Il y a un autre facteur qui est important. Ils sont, comme c'est un climat océanique, donc humide, ils sont néanmoins en train de proposer aux vignerons soit de passer en bio, soit de passer de certification HVE3.
Alors, oui, c'est bien ça.
Et ils ont constaté, comme ils ont des cépages blancs très aromatiques basés sur les thiols, hein, le colombard, le sauvignon, le mansagne aussi, quand on passe en bio, on a tendance à utiliser pas mal de cuivre pour gommer le mildiou et l'oïdium.
Ce qui n'est pas très bon pour le sol.
C'est pas que ça. Ça aussi, c'est pas très bon pour les arômes très typés de ces cépages. Donc, ils sont en train de travailler. Ils ont un projet de recherche avec l'INRA et l'ETV pour lutter contre ça et essayer de faire passer. Ils ont l'ambition aujourd'hui, 25% du vignoble est en HVE3 déjà. C'est énorme. Et ils veulent passer la quasi-totalité d'ici 3 ou 4 ans. Donc ça, avec des programmes de recherche sur des cépages résistants, c'est-à-dire des croisements entre les cépages que j'ai cités tout à l'heure et des cépages résistants à ces deux maladies cryptogamiques. Et ça, à mon avis, c'est un projet de long terme vraiment excellent pour la terre.
Philippe Orbach, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat, comme gastronomie avec les vins Côte de Gascogne dont David Cobol parle si bien?
Pour les blancs qui sont quand même très majoritaires, c'est des super vins d'apéritif. Ce sont des vins aromatiques, comme le disait David, grâce au thiol. Donc, ça donne des vins aériens, très fruités, très avenants. Donc, et puis, ce sont des vins relativement légers, même légers en alcool. Donc, du coup, ça passe quand même super bien pour l'apéro. Sinon, avec des légumes, là, on a des premières asperges qui arrivent, des vins très aromatiques avec un profil sec.
Avec les légumes de votre jardin, David Cobold.
Oui, c'est ça.
Un grand jardinier.
Mais sûrement.
Venez chez moi.
Voilà. Ou avec des poissons fumés, ça passe aussi particulièrement bien. Voilà, c'est quelques idées, voire des fromages, et notamment des fromages de chèvre.
Comme disait Philippe sur les blancs, le profil des rosés, je sais que ça va être la saison des rosés, c'est plutôt vif et léger. Hein. Léger en alcool, beaucoup de fruits, belle acidité.
Est-ce qu'ils ont une vraie couleur de rosé, David Cobol, ou est-ce qu'ils ont une rosé pâle?
Ça dépend le producteur. Moi, j'ai tendance à privilégier les rosés les plus colorés.
Mais les vrais rosés quelque part.
Quoi. Ouais, et oui, Il faut que tu nous mettes en relation, peut-être qu'on pourra le référencer à la carte.
Oui, c'est ça, Thibaut, sur Divine, peut-être que ça serait bien d'avoir, pourquoi pas, des codes de Gascogne. Non, il faut également aller voir des vins à découvrir et avec l'excellent rapport qualité-prix, non?
Ça va donner envie, ouais, tout à fait.
Bon, alors on continue avec l'envie avec vous, Philippe Orbach. Hein. Vous donnez envie, Philippe, avec votre barbe fleurie. direction le Bordelais. On va où, dans quelle appellation? Parce que c'est vaste, c'est... le Bordelais, Philippe.
Le Bordelais, c'est magnifique, c'est vaste, ça fait 100 000 hectares, donc il y a de quoi faire. Et il y a vraiment, et je voudrais commencer en disant que, franchement, le Bordelais, alors on parle de plus en plus de petites appellations, de petites régions, etc., mais il faut peut-être aujourd'hui redécouvrir le Bordelais. En tout cas, être attentif à ce qui s'y passe, parce que bien sûr qu'il y a les grands crus, les grands châteaux, les grandes marques, etc.
On en parlait hier avec Sylvie Caz et son château Chauvin, notamment.
Exactement. Mais il y a aussi beaucoup de vins peu connus, d'appellations accessibles en prix, en goût. Et je pense que vraiment, ça vaut la peine de s'y intéresser, parce que je pense qu'il y a des pépites et beaucoup de jeunes vignerons qui essayent de sortir un peu du Bordeaux bashing, etc. aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment des choses à découvrir, quoi.
Philippe, si David, je peux me permettre, j'ai noté sur la sélection de Divine un excellent qui tombe exactement dans ce cas, le Bordeaux blanc de la famille Ducourt, le château d'Oretz. C'est très bon. Et ça vaut
un 100% Sauvignon, je suppose, David.
Très majoritairement. Je crois qu'il y a aussi du Sauvignon gris et du Sémillon.
Ouais, allez, avec modération, mais buvez français. Buvez français. Il faut aider les vignerons français et soutenir aussi les amateurs de vin. Philippe Forbach.
Très bien, mon cher Anne. Donc, c'est un très bon exemple. Moi, je vous amène dans le Médoc, et plus précisément dans le Haut-Médoc. Et même s'il y a des appellations très connues comme Saint-Julien, Saint-Estèphe, Margaux, par exemple, il y a aussi, ou Pauillac, il y a aussi des petites appellations qui méritent d'être plus mises en avant. Et parmi celles-là, il y a Moulis et Listrac. Et aujourd'hui, je voulais parler du terroir de Listrac, qui est un terroir donc qui est situé au sud du secteur des appellations communales que je viens de citer, et qui a comme caractéristique d'être la plus éloignée peut-être de l'estuaire, d'être au confluent de la forêt landaise, plutôt côté atlantique, donc d'avoir une influence à la fois géologique, mais surtout climatologique très différente. Et ça donne des profils de vins qui sont un petit peu singuliers dans ce panorama médocain. Donc Listrac Médoc, d'ailleurs, puisqu'on associe les deux, parce que surtout au début du lancement de l'appellation communale, parce que c'est une des plus récentes, avoir eu l'appellation communale dans ce secteur-là du Bordelais, les gens n'associaient pas nécessairement Listrac à Bordeaux, et même Listrac à Médoc. Voilà. Donc on a insisté en disant, voilà, Listrac Médoc. Aujourd'hui, il y a un peu plus de notoriété. C'est quand même pas une grande appellation en surface par rapport aux autres appellations du coin, puisque ça fait à peu près 700 hectares en tout. Donc, ça reste pas confidentiel, mais ça reste pas une très grande appellation en volume également. Ça produit que des vins rouges issus de, bien sûr, du Cabernet Sauvignon, qui est le grand cépage traditionnel, mais également du Cabernet Franc, du Merlot, rarement du Petit Verdot ou d'autres cépages un peu complémentaires. Et c'est une appellation qui, finalement, bénéficie relativement bien des conditions climatiques qui évoluent aujourd'hui et du réchauffement qui peut avoir, bien entendu, ses limites et avoir des conséquences négatives. Mais dans ce cas-là, ça permet d'avoir, notamment pour le Cabernet Sauvignon, des Cabernet Sauvignon plus mûrs, plus équilibrés, moins avec le côté végétal et rustique que l'on pouvait avoir avant, et du coup donner des vins beaucoup plus sur le fruit, beaucoup plus sur la rondeur, tout en gardant une réserve un petit peu d'acidité. Donc, c'est vraiment... Des vins qui aujourd'hui, quelque part, demandent à être reconsidérés, vraisemblablement. Et dans les derniers millésimes le prouvent. Quand on a la capacité de déguster, même s'ils sont encore un peu jeunes, des 2015, des 2016, voire des 2018, qui pour le coup sont vraiment à tendre, on s'aperçoit effectivement de cette évolution qualitative dans la structure des tanins, dans l'équilibre entre le pulpeux du vin et son acidité. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Mais la grande chance de cette appellation, c'est d'avoir aussi des vins, et c'est un élément important pour nous, hein, les uns et les autres, d'un bon rapport qualité-prix. On n'est pas du tout dans les sphères de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros de certains grands vins qui, certes, le méritent pour un certain nombre de raisons évidentes, de notoriété, de qualité également, de positionnement sur l'échelle sociale, etc. Là, c'est pas le cas. Et du coup, on paye le juste prix sûrement, peut-être parfois même que ces vins sont pas assez chers.
Alors, c'est combien le juste prix, là, Philippe? Le jeu ce dimanche, là.
Ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui. Mais la plupart des vins de Listrac sont des vins qu'on trouve entre 15 et 20 euros pour des jolies bouteilles qui, en plus, et c'est un élément qui n'est pas une vertu négligeable, ce sont des vins qui se gardent très bien. Vous ouvrez aujourd'hui des 98 ou des 99, c'est parfait. Si vous avez plutôt des vins de la décennie 2000, vous goûtez un 2005, un 2009, c'est juste génial. Et si vous êtes un peu plus pressé, faites-vous plaisir avec un 2011, par exemple. Et là, on est parfait.
Et là, il est bon à voir maintenant, quoi.
Oui, bien entendu. Alors, c'est parfait. En ce moment, c'est l'agneau. Hein. On en a mangé le week-end dernier largement. S'il vous reste encore un peu d'appétit pour goûter l'agneau, c'est vrai que l'agneau est notamment de Pauillac voisin, mais d'ailleurs, ça m'oxyde très bien, n'est-ce pas?
Dans l'agneau du pays nantais. L'agneau du pays nantais, là.
Et le pays nantais. Les fameux. Les présalés du Mont-Saint-Michel, d'ailleurs.
Ah là là là.
Ceux de Sisteron, de l'agneau des Pyrénées, etc.
Non, l'agneau du Gers aussi, parce que chez David Coppold, il y a deux, trois agneaux sympas aussi à voir.
Ouais. On n'en a pas beaucoup.
Exactement. Hein. Exactement. Donc, c'est vrai que ça fonctionne très, très bien. Plutôt de viande un peu rôtie. N'hésitez pas aussi à travailler sur les épices parce que les grands vins de Bordeaux ont cette capacité à, effectivement, à les jongler un petit peu avec le goût des épices. Donc,
Philippe, les bonnes adresses, les quelques vignerons à ne pas louper, hein, vous en avez parlé.
Bien sûr. Château-Maine-Lalande, Ducluseau, Fourcasse-du-Pré, Fourcasse-Ostène ou encore le fameux Château-Clark font partie effectivement des belles adresses de cette finalement noble appellation.
Est-ce que vous savez pourquoi il faut manger de l'agneau avec des vins tanniques comme ça? C'est à cause du sel. C'est le sel qui adoucit le tanin. Donc,
l'incompense.
Voilà. Un plat de viande salée réduit l'agressivité des tanins immédiatement. Donc, ça transforme complètement le vin.
Et le croustillant de la peau de la cuisson
aussi
concentre les sucs pour effectivement donner encore plus de plaisir.
On a faim.
Ça y est, on a faim. Merci beaucoup,
mesdames et messieurs, le piment d'Espelette,
c'est la cuisinière. Ah ouais. Merci beaucoup, Philippe Forbrac. Merci également à vous, David Cobol et Thibaut Jarousse. Merci également à tous les amateurs de vin du monde entier qui nous écoutent de plus en plus et très nombreux chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Vive les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.